Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Une histoire avec accent aujourd'hui. Une affaire criminelle de 1953 dont le titre est déjà tout un programme. La lessiveuse de la mort. Et qui se déroule dans un décor assez rare, un petit village des Hautes-Pyrénées qui s'appelle Arreau. Une histoire que j'ai écrite à partir d'un livre signé par Jean-François Fourcade, Crime en Bigorre, publié à compte d'auteur. Et il est là, bien sûr, pour le débrief. Bonjour Jean-François Fourcade.
Bonjour Monsieur Ondelat.
Vous êtes avocat honoraire, comme on dit. Vous avez été bâtonnier du barreau de Tarbes. Et là-bas, chez vous, on vous connaît sous votre surnom, Coudache. Et vous consacrez, au fond, votre retraite à collecter des histoires de votre région et à les raconter. Un grand merci, parce que c'est grâce à vous que je vais pouvoir raconter cette histoire aujourd'hui. La lessiveuse de la mort, réalisation de Céline Lebrun.
14h, 15h, on de la traconte sur Europe 1.
Cette histoire éclate un soir de février 1953 dans un village des Hautes-Pyrénées accroché à la montagne. Arreau, 900 habitants. On est à 700 mètres d'altitude. Il fait nuit, il a neigé, il fait un froid de gueux. Et regardez là, vous le voyez, le type qui court dans le sentier avec son béret enfoncé sur la tête. On dirait qu'il va à la gendarmerie. C'est maintenant que commence mon histoire. Quand il arrive en courant, essoufflé, les gendarmes le reconnaissent tout de suite. C'est Bikini, un ouvrier agricole italien, un ivrogne notoire.
Eh bien, Bikini, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que vous veniez. Vite, il y a un type, il est en train de cuire dans la lessiveuse à Fouraste. Un type qui cuit dans la lessiveuse de Fouraste. Eh bien, dis donc, Bikini, t'aurais pas un peu forcé sur le gros rouge? Ah non, je jure, il y a un pied qui dépassait la lessiveuse. Un pied? Assieds-toi, Bikini, va. Raconte-moi ça.
Bikini s'assoit. Bikini, c'est pas son vrai nom, hein, mais tout le village l'appelle comme ça. Son vrai nom, c'est Bessighini, Angelo Bessighini. Et donc, il raconte. Après son travail, il s'est arrêté chez son copain Jean Fouraste, le matelassier, l'ancien garde-champêtre, viré pour cause d'ivrognerie. Il avait envie de boire un coup, comme tous les soirs, et pas que le soir. Je vous préviens, dans cette histoire, il y a des ivrognes à tous les étages. Donc il a sonné chez Fouraste, comme tous les soirs à la même heure. L'autre met un peu de temps à lui ouvrir.
Attends, Bikini, je ne sais pas où j'ai fourré mes clés. Ah, les voilà.
Il entre dans la cuisine. Il dit que la compagne de Fouraste est là, la veuve Lapierre, en train de découper un lapin. Et là, il sent une odeur terrible. Une odeur qui prend à la gorge, qui semble venir de la lessiveuse dans la cheminée. Là-dessus, la veuve Lapierre lui propose de manger un bout de son lapin. Ça ne se refuse pas. Et là, d'un coup, dans le dos de la mère Lapierre, la lessiveuse se met à bouillir. Et le couvercle se soulève.
Et c'est là que j'ai vu un pied humain, dans la marmite.
Bon, les gendarmes n'y croient qu'à moitié. Ils connaissent les oiseaux, et Bikini, et Fouraste, des ivrognasses. Comme tous ceux d'ailleurs qui passent chez Fouraste, il héberge des gens en pension. Tous comme lui, cramés du matin au soir. Donc cette histoire de pieds qui flotte dans la lessiveuse, ils y croient moins qu'au code pénal. Mais ils y vont, avec Bikini, à pied.
Bonsoir, Fouraste. On peut rentrer?
«
Ils entrent. Horrible des putes. La table de la cuisine, on dirait un étal de boucher. Il y a une hache, il y a des couteaux, il y a une scie, et il y a du sang qui a coulé sur le plancher. Et dans la cheminée, il y a bien une lessiveuse avec un gros couvercle qui laisse passer non pas un, mais deux pieds. Et c'est pas fini, hein. Près de la cheminée, il y a une porte. Il l'ouvre. Il y a des morceaux de corps partout. Partout, posés dans la sciure. Ici, un tronc sanguinolent, et là, des bras, et là, des jambes. Bikini avait raison. On est chez les fous, ils ont découpé un gonze en morceaux et ils l'ont mis à bouillir dans la lessiveuse. Mais qui ?
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 1953. L'histoire de la lessiveuse de la mort, qui a pour théâtre un petit village de montagne des Hautes-Pyrénées, Arreau. Le soir du 26 février 1953, un ouvrier agricole surnommé Bikini vient en courant à la gendarmerie raconter qu'il a vu un pied humain bouillir dans la lessiveuse de son ami fourrasté, chez qui il était passé boire un coup. Sceptique, les gendarmes le suivent chez ce fourrasté et il tombe sur une boucherie. On vient de découper un cadavre et on a commencé à le faire bouillir. Et il y en a partout, partout, du sang, des bouts de chair. Dans la lessiveuse, il y a donc les deux pieds, mais en dessous, on s'aperçoit qu'il y a la tête. Une horreur, à tel point qu'il faut 4-5 minutes aux gendarmes pour s'en remettre. Et naturellement, il se retourne vers Fourasté et sa veuve Lapierre, qui est sa maîtresse, en vérité. Et là, il réalise qu'ils ne vont rien pouvoir en tirer. Les deux oiseaux sont ivres morts. Ils baragouinent deux ou trois gros mensonges.
Moi, je sais pas ce que c'est. J'étais pas là. Il vient juste de rentrer.
Mais grâce à Bikini, les gendarmes ont assez vite une idée de qui est en train de bouillir dans la lessiveuse. D'après Bikini, il s'agirait d'un certain Pierre Larrand, un vieillard que Fourasté et sa maîtresse avaient en pension depuis 6 mois.
Il est quoi qu'il avait dans les 78 ans ou quelque chose comme ça. Bravo, hein. Il les voyait tous les soirs.
Et donc les gendarmes embarquent les deux ivrognes et les mettent en cellule à décuver. Et ils appellent leur chef à Toulouse.
Dites-moi, capitaine, on a une drôle d'affaire pas ici. Un corps découpé en morceaux et mis à cuire dans une lessiveuse. Ah, vous nous envoyez la 8e brigade mobile. Bon, très bien, on les attend.
Eh oui, l'affaire est un peu grosse pour les gendarmes du coin. Et la nouvelle, pensez-vous, fait le tour du village en moins de 2. Les gens ne connaissent pas le pensionnaire Larrand, mais tous connaissent Fourasté. Et d'ailleurs, ils ont un peu de mal à croire qu'il a pu faire ça.
Bon, ça n'est pas un mauvais homme. Mais il boit. Hein ? Vous voyez ?
Et ils la connaissent, elle aussi. La crasseuse, comme ils l'appellent. La veuve Lapierre. Ils la détestent.
Lui n'aurait jamais fait ça s'il n'avait pas rencontré cette femme. Hein ? Ça fait 5 ans qu'elle est là. Et depuis qu'elle est là, elle a fait fuir tout le monde. Tout le monde. Elle a coupé Fourasté du village.
Il y en a même qui vont beaucoup plus loin.
Vous savez quoi ? Elle est veuve. Eh bien, renseignez-vous. Son mari, il est mort d'une drôle de manière.
Il paraît qu'elle l'a empoisonné.
Mais si, vérifiez.
Elle a même fait de la prison.
Et c'est vrai qu'elle a fait de la prison pour captation d'héritage. Et c'est même l'une de ses co-détenues qui lui a présenté M. Larrand, le mort en quitte. M. Larrand qui venait de divorcer et qui cherchait, pauvre homme, une pension pour ses vieux jours. Nourri, logé, blanchi. Mais je vais trop vite. De toute façon, les deux oiseaux viennent de finir de décuver. Alors, écoutons leurs explications. Le lendemain matin, les gendarmes vont d'abord chercher la veuve Lapierre. Et ils la ramènent sur place, dans la maison, au milieu de la barbaque, en se disant que ça va lui faire un choc. Et c'est ce qui se passe.
Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Fouraster est venu me voir le matin. Il m'a dit, viens voir ce que j'ai fait du vieux. J'y suis allé. Et là, j'ai vu le corps. Il était allongé sur le dos. Et là, il m'a dit, t'as vu ? Maintenant, il ne nous embêtera plus.
Et elle explique après en quoi il les embêtait, le vieux Laran. Le mobile, quoi. D'après vous, enfin, depuis le temps que je vous raconte des histoires, vous devriez savoir pour quelles raisons les gens se tutillent les uns les autres, le plus souvent. L'argent. Monsieur Laran avait de l'argent. Un petit capital de 400 000 francs. Et tous les trimestres, une jolie retraite de l'industrie de 14 000 francs. Le duo a commencé par mettre la main sur sa retraite, tous les mois, le prix de la pension complète. Et ensuite, la veuve Lapierre raconte qu'elle s'est mise dans l'idée de s'acheter une maison. Elle voulait quitter Fouraster, elle prétend qu'il la malmène. Et elle explique qu'elle a trouvé une maison à Auch pour 600 000 francs. Et que le vieux Laran, voyant qu'elle n'avait pas assez d'argent, lui a gentiment proposé d'acheter la maison à deux. Il a mis 250 000 francs sur la table. Et elle a oublié de le faire inscrire sur l'acte d'achat. C'est ballot, hein ? Elle raconte que quand il s'en est aperçu, ça ne lui a pas plu du tout et qu'elle a été obligée de lui faire une reconnaissance de dette. C'était donc ça, le problème. Ils l'ont réglé, à leur manière d'ivrogne. Ils s'y sont mis à deux. Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 1953, l'histoire de la lessiveuse de la mort, qui a pour théâtre un petit village de montagne des Hautes-Pyrénées, Arreau. Le soir du 26 février 53, les gendarmes découvrent chez Jean Fouraster, un habitant du village, un cadavre dépecé. La tête et les pieds sont en train de bouillir dans une lessiveuse placée dans la cheminée. Ils identifient la victime. C'est un vieillard que Fouraster et sa compagne, la veuve Lapierre, avaient en pension à leur domicile. Pierre Laran. Interrogée la première, la veuve Lapierre avoue qu'ils l'ont tuée pour ne pas lui rembourser 250 000 francs qu'elle lui avait empruntés. Et donc la veuve Lapierre raconte comment ils ont procédé. Le matin, par l'autobus, elle est allée à la pharmacie.
Bonjour madame, je voudrais deux tubes de Gardénal. S'il vous plaît. Oui, bien sûr.
Le Gardénal est un barbiturique qui, à haute dose, fait un excellent poison. Donc, au départ, ils envisagent d'empoisonner le vieux Laran. Et puis ensuite, elle va chez le quincailler acheter de la soude caustique. Ça, c'est pour dissoudre le cadavre. C'était ça que ça sentait. Ça sentait la soude. Et elle a ramené tout ça à la maison. La veuve raconte que quand elle est rentrée, Laran était malade. Alors elle lui a fait deux bonnes crêpes fourrées pour le requinquer. Qu'elle a sans doute fourré au Gardénal. Elle dit le contraire, mais on a retrouvé un tube vide et l'autre entamé. Et le légiste a identifié de grandes quantités de Gardénal dans les viscères de Laran. Et la suite ? Eh bien, c'est Fouraster qui la raconte, parce que c'est lui qui a tué Laran. Au début de son interrogatoire, il chicane un peu. Et puis il finit par dire qu'il a étouffé Laran dans son lit, le matin, vers 6 heures.
J'ai pris le couvre-pied et je l'ai mis sur son visage. Et là, j'ai appuyé longtemps, hein, et il était mort.
Et là, on comprend au passage que le brave Bikini, qui est allé jouer la vierge effarouchée chez les gendarmes, était au courant. Depuis le matin, il est passé vers 11 heures pour boire un coup, et Fouraster lui a dit qu'il avait tué Laran. Et donc il n'a pas découvert le meurtre le soir, comme il l'a dit, en voyant un pied bouillir dans la lessiveuse. Bikini a menti. Et du coup, le juge décide de l'inculper lui aussi, pour complicité. Sauf que le pauvre Bikini meurt avant la fin de l'enquête, de mort naturelle. Il ne sera donc pas présent au procès. Donc c'est Fouraster qui tue Laran. Et on se demande d'ailleurs pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, lui? Parce que dans cette histoire, lui c'est le cocu. Ça ne lui rapporte rien de tuer le vieux Laran, au contraire. Maintenant que la Lapierre a effacé ses dettes, elle va partir s'installer à Auch, dans sa nouvelle maison. Elle va l'abandonner. Il le sait pourtant, ça. Et d'ailleurs, elle, la première chose qu'elle fait quand elle voit le cadavre, c'est de fouiller la poche de sa veste et de chipper la reconnaissance de dette. Et au passage, 14 000 francs en espèces et 6 bons de l'EDF pour une valeur de 55 000 francs. Donc pourquoi Fouraster tue-t-il Laran? Il n'y a pas de logique. Mais ne pas oublier dans ce dossier qu'on a affaire à des ivrognes. Mais pourquoi diable l'ont-ils mis ensuite à bouillir dans la lessiveuse? Il y avait bien d'autres manières de se débarrasser de ce cadavre. On est en pleine montagne, il n'y avait qu'à le pousser, je ne sais pas moi, dans un trou. Non, il le découpe en morceaux et il le met à bouillir. Fouraster reconnaît que c'est lui qui a donné le premier coup de scie, la tête. Et ensuite il l'a mise à bouillir dans la lessiveuse. Et elle, elle dit qu'elle n'était pas là.
« Oh ben j'ai pas assisté à ça, hein ! J'étais au premier étage, dans ma chambre. »«
Mouais. »
Eh bien, je vous jure, je suis descendu quand Fouraster m'a réclamé une chemise propre. La sienne était tachée de sang.
N'empêche que d'après Bikini, ça ne l'a pas gêné juste après de déjeuner dans la cuisine, sur la table qui avait servi à la découpe, alors que la tête et les pieds étaient en train de bouillir dans la lessiveuse. Alors, bien sûr, comme toujours dans ce genre d'affaires, on se demande si les deux zozos sont sains d'esprit. Il y a tellement d'irrationalité dans cette histoire. Fouraster qui tue Laran sans aucun mobile. Tous les deux qui mettent le corps à bouillir dans la soude sans aucune raison. Est-ce qu'ils sont fadas? On les donne à examiner à deux médecins psychiatres. Conclusion, ils ne sont pas fadas. Donc, on va pouvoir les juger devant la cour d'assises. Et là, j'attire votre attention sur un point. Au bout de l'enquête, la préméditation ne fait aucun doute. Aucun. Et donc, ils encourent la peine de mort. L'enquête aurait conclu que c'était une bagarre entre ivrognes qui a dégénéré, ils s'en seraient sortis avec des travaux forcés. Ils auraient fini au bagne, à Cayenne. Mais là, c'est un assassinat. Et en 1953, les assassins, on leur coupe la tête. Sans état d'âme. Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 1953, la lessiveuse de la mort, qui se déroule dans un petit village de montagne des Hautes-Pyrénées, Arreau. Un couple d'ivrognes, Jean Fouraster et la veuve Lapierre, tuent l'un de leurs pensionnaires, Pierre Laran, découpe son cadavre en morceaux et les met à bouillir avec de la soude dans une lessiveuse, dans la cheminée. Mobile, effacer une dette qu'ils avaient à son endroit de 250 000 francs. Une histoire que je vais débriefer dans un instant avec Jean-François Fourcade, dit Coudache, un ancien avocat de Tarbes qui raconte cette histoire et d'autres dans un livre paru à compte d'auteur, Crime en Bigorre. Et maintenant, voici venu l'heure du procès. Procès qui a lieu l'année d'après, le 15 décembre 1954, devant la cour d'assises de Tarbes. Pour le coin, c'est une énorme affaire. On annonce plus de 20 journalistes, dont beaucoup venus de Paris. Et donc juste avant, on donne un coup de peinture dans la salle d'assises. « Le jour de l'ouverture, il y a un monde fou. Beaucoup plus que de place dans la salle. Beaucoup de gens restent dehors. Au milieu du prétoire, le président a fait déposer les armes du crime. La lessiveuse est là, la scie, la hache et les couteaux.
Mesdames et messieurs, la cour, faites entrer les accusés, s'il vous plaît.
Fourasté entre en premier, en complet gris, et la femme Lapierre arrive ensuite en manteau noir avec une écharpe rouge. Et le greffier se met à lire l'acte d'accusation.
Dans le courant de 1952, la femme Lapierre réussit à attirer chez elle un vieillard de 77 ans, Larent Jean-Pierre.
En sus de sa retraite, et commence ce qu'on appelle l'interrogatoire de personnalité. On apprend que Fourasté a quitté l'école à 13 ans sans son certificat d'études, qu'il s'est marié en 1929 et qu'assez vite il s'est mis à boire. Le président lit une anecdote dans l'enquête de personnalité.
Monsieur Fourasté, il est noté dans le rapport que lors de Paris stupide, vous buviez de grands verres de sang et vous mangiez des grenouilles vivantes. Vous confirmez ? Oui, je m'en souviens. Ça m'a valu d'être pris pour un anthropophage.
Et après, Fourasté quitte sa femme pour la veuve Lapierre, qui a droit, elle aussi, à un petit résumé de sa vie. On raconte qu'elle a divorcé en 1922, qu'ensuite elle s'est prostituée et qu'elle s'est spécialisée dans le plumage des vieillards. Plusieurs de ses amants sont morts dans des conditions suspectes. Mais on n'a jamais trouvé la preuve qu'elle les avait tués. Et puis on en vient aux faits. Et là, surprise, Fourasté revient sur ses aveux. Il se met à accuser, ce qui est commode, le troisième larron, Bikini, qui est avant la fin de l'enquête.
C'est Bikini qui a tué. C'est lui qui a dépecé. Moi, j'ai fait que déplacer le cadavre.
Sauf qu'à côté de lui, la femme Lapierre continue de l'accuser.
Mais c'est un menteur. Et c'est un gros menteur. C'est lui qui l'a tué. C'est lui qui l'a découpé. Il m'a dit plusieurs fois, ce vieux m'embête, je vais le descendre. Il ment, monsieur le président, il ment.
Il ment peut-être, mais elle aussi. Elle se donne le beau rôle. Elle dit qu'elle a passé la matinée dans sa chambre et qu'elle n'a pas mis de cardinal dans les crêpes et que si elle a acheté de la soude caustique, c'était pour fabriquer du savon. On fait ensuite défiler 17 témoins, dont un psychiatre de Lannemezan, le docteur Bertrand, qui vient rappeler une chose essentielle dans ce dossier. Ce sont des ivrognes. Des ivrognes. Et puis on en arrive aux plaidoiries, en commençant par Maître Chartier, partie civile, pour les enfants du pauvre Pierre Larent.
Par mon organe, Larent demande que justice soit faite, sans aucune atténuation quelconque. Il n'est pas concevable que l'on puisse excuser, d'une manière ou d'une autre, Fourasté et Lapierre.
Suit la plaidoirie de l'avocat général d'Estouette, très attendu.
C'est elle qui prépare, et c'est lui qui exécute. Alors, il est toujours triste de requérir la mort, hein ? Mais la pitié doit reculer devant l'horreur. Et donc, pour tous les deux, je requiers la peine capitale.
Sans surprise. Là-dessus, le président suspend l'audience.
Nous reprendrons à 2h30. L'audience est levée. La cour.
Voici maintenant la dernière ligne droite de ce procès, les plaidoiries des deux avocats de la défense. Et d'abord Maître Cosette qui défend Fourasté.
Mon client n'a pas tué Larent, puisque c'est elle qui l'empoisonne avec le cardinal. Et que l'idée du dépeçage vient de Bikini, soyez-en certains. Vous noterez que mon client n'avait aucun mobile pour tuer Larent, aucun. il n'en tire strictement aucun parti. En conséquence de quoi, je vous demande d'acquitter M. Fourasté. »
Le dernier à parler est l'avocat de la veuve Lapierre. Et ça n'est pas n'importe qui, il arrive tout droit de Paris. C'est un ténor du barreau, maître René Floriot.
« Avez-vous, mesdames et messieurs les jurés, la moindre certitude dans cette affaire ? Avez-vous la certitude que ma cliente, Madame Lapierre, a participé au meurtre, au dépeçage ? Vous n'avez pas de certitude. Vous n'avez que des doutes. Et c'est l'honneur de cette institution que de faire bénéficier l'accusé du doute qui vous transperce de part en part. Ma cliente a certes participé au dépeçage du cadavre. C'est entendu. Mais ça n'en fait pas pour autant un assassin. Et il vous reviendra de définir une peine qui soit à la hauteur de ce qu'elle a fait, avec certitude. Rien de plus.
Les jurés se retirent pour délibérer à 17h58 et ils sont de retour avec le verdict 47 minutes plus tard.
À la question, le meurtre a-t-il été commis avec préméditation ? Les jurés, dans leur majorité, ont répondu non. En conséquence, les accusés sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. L'audience est close. Amenez les condamnés.
Grâce au talent de leurs avocats, tous les deux ont sauvé leur tête.